Je voudrais qu'on puisse en lire un verset dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 25. On va continuer notre thématique sur qu'est-ce qui édifie l'Église. On a parlé que quand on bâtit avec Christ et sur Christ, on est sûr qu'on édifie l'Église. On a parlé que quand on est un artisan de paix, on édifie l'Église. Et on va voir un troisième aspect ce matin dans ce chapitre 5, verset 25. Du livre des Éphésiens. Normalement, tous les maris le connaissent par cœur. Mais je ne vais pas insister sur cet aspect des maris ce matin, puisque vous le connaissez tous par cœur, ce verset. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. On est d'accord que ce qui est décrit là, c'est une église qui est édifiée. Une église glorieuse, sainte, sans tache, irréprochable. C'est le but. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir que la façon dont Jésus a choisi de décrire au travers de l'apôtre Paul, l'édification de l'Église, c'est de dire une Église glorieuse. Une Église édifiée, c'est une Église glorieuse. Mais une Église glorieuse, c'est quoi? C'est une Église qui glorifie Christ. Tout simplement. La gloire, ce n'est pas la gloire de l'Église. La gloire, une Église glorieuse, c'est une Église qui a la gloire, qui porte la gloire de son Sauveur et de son Seigneur. Comment est-ce que l'Église glorifie le Christ? Alors là, on va dans Romains, chapitre 15, et le verset 5, et on a une réponse qui va être justement le thème central de ce message. Et je peux vous dire que déjà le Saint-Esprit l'a rappelé plusieurs fois. Romains 15, verset 5, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que, tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » L'Église est glorieuse quand elle porte la gloire de Christ. Et c'est quand tous ceux qui composent l'Église sont tous ensemble. L'Église s'édifie quand nous sommes tous ensemble. Vous allez me dire, mais on est tous ensemble, on est dans une pièce. Oui, ça c'est une façon, mais c'est pas ça. Quand la Bible dit tous ensemble, on voit d'ailleurs dans ce verset, il est clair, avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Quand on lit le mot sentiment, c'est pas les émotions, mais c'est l'état d'esprit. C'est la force de caractère du Saint-Esprit en nous qui doit être la même. La même vision, la même ambition, dans le bon sens du terme. Le plus important, c'est d'être tous ensemble. D'ailleurs, si on s'arrête juste au mot « église » et l'étymologie, est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot « église » ? Vous savez pas ? Je vous l'apprends alors, ou je vous le rappelle. « Ec », ça veut dire « hors d'eux », « ecclésia », c'est l'appel, « appelé hors d'eux ». C'est-à-dire qu'il y a un appel qui a retenti et on sort d'un endroit pour aller vers là où l'appel nous envoie. Il y a eu l'appel à sortir du péché par la mort de Jésus à la croix, ça a été rappelé. Et parce qu'on a répondu à cet appel, on est sorti. Et en sortant du péché, de la boue du péché, on devient membre de l'Église. Spirituelle, bien sûr. D'accord ? Et c'est tout simplement ce que veut dire le mot « Église ». Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on sort, on vit tous la même chose et on va tous au même endroit dans cette union de la communion fraternelle parce qu'on a la même foi dans le Seigneur Jésus. Et il y a un livre dans la parole de Dieu qui nous parle de cette communion, de ce tous ensemble. Il y a même cinq fois dans les cinq premiers chapitres où il est question d'être tous ensemble. Je pense que vous avez deviné de quel livre il s'agit. C'est d'ailleurs le livre qui est vraiment le fondement de l'Église. C'est remarquable de voir que dans ce livre-là des Actes, vous avez déduit, le fondement de l'Église, ça repose sur l'aspect d'être tous ensemble. ensemble pour persévérer, pour être plein de puissance, pour prendre soin les uns des autres, pour partager, pour porter. Acte 1, verset, on va rester dans le livre des Actes. Acte 1, verset 12. Mais on va lire donc ces cinq fois où il est question d'être tous ensemble. On le connaît bien en plus, hein, ces versets-là. Acte 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Tous d'un commun accord, littéralement, c'est l'expression « tous ensemble persévérer dans la prière ». Première raison d'être ensemble, c'est dans la persévérance dans la prière. Est-ce que vous avez toujours envie de prier ? Est-ce que vous êtes toujours à 100% dans votre vie spirituelle ? Ou est-ce que parfois vous avez aussi besoin que d'autres vous encouragent ? Moi, je peux vous dire, quand j'étais étudiant, on avait un petit groupe de prière avec d'autres étudiants, mais des fois, il y en a un qui était à bloc et qui remontait les autres, qui encourageait. Et puis, des fois, il était à plat et c'était nous qui étions à bloc. Chacun son tour, en fait. On passait le relais. Mais c'est le verset qui dit, si deux marchent et que l'un tombe, ben, l'autre le relève. C'est exactement ça. Voilà pourquoi on a besoin d'être tous ensemble et tous ensemble dans la vie de prière. On sait que les versets qui précèdent parlent de Jésus qui est monté au ciel. On sait que dans le cœur des disciples, ils ont vécu tellement de belles choses que le fait de réaliser que le Seigneur n'est plus là, ça laisse un grand vide. Mais c'est la meilleure raison pour se retrouver tous ensemble et pour persévérer dans la prière. Parce que le Seigneur veut combler. Le Seigneur, il n'aime pas les vides. Le Seigneur, il n'aime pas. Il aime les cœurs vides, mais pour les remplir. Mais il n'aime pas laisser les choses vides. Il n'aime pas que nos cœurs soient vides et qu'on les laisse comme ça, parce qu'il sait que l'être humain, quand il a le cœur vide, il veut le combler de tellement et tellement de choses. Mais quand le Saint-Esprit vient et envahit notre être, alors le Seigneur est heureux d'avoir fait son œuvre dans nos vies. La question qu'on pourrait se poser, c'est quand est-ce que je prends du temps pour prier avec mes frères et mes sœurs ? Je ne compte pas le culte, parce que là, on peut venir et participer, écouter les uns et les autres. Mais vous comprenez, ces temps où je prie avec mon frère, avec ma sœur, que je partage des choses, que je vis ces moments de qualité. Vous savez, quand j'étais jeune, quelqu'un m'a dit, et il avait raison, on ne connaît pas bien quelqu'un si on n'a pas prié avec lui. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Mais on peut connaître quelqu'un en discutant de tout, du match, de la météo et... Mais quand on prie avec quelqu'un, il y a quelque chose d'autre. Il y a un niveau supplémentaire qui est franchi. Bien sûr, quand on est dans la foi, hein, je parle. Mais c'est quelque chose que de pouvoir partager ces moments avec notre Seigneur, dans la prière, dans les combats, dans tout ce qu'on peut partager. Il y a une force de guérison incroyable. C'est pour ça qu'il y a des versets qu'on aime, mais on a raison de les aimer. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais qu'est-ce qu'il est dit avant ? Il est dit que c'est dans le cadre des personnes qui prient ensemble. Ce que vous demanderez ensemble vous sera accordé, dans le nom de Jésus bien sûr. Regardez acte 2, verset 1er. Celui-là on le connaît par cœur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient, comment ? Tous ensemble, dans le même lieu. Donc vous voyez qu'on peut être dans le même lieu, mais pas tous ensemble. Mais là c'était le cas. Tous ensemble dans le même lieu, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parce qu'ils ont persévéré ensemble dans la prière, ils ont été pleins de puissance. Ensemble, pour être plein de puissance. Alors c'est intéressant parce que quand on pense à la puissance, on pense à beaucoup de choses. Mais j'aime bien étudier ce que dit la parole de Dieu. Quand on pense à la puissance, on pense aux signes, on pense aux miracles, on pense aux prodiges. Mais on sait qu'on est dans un temps où l'ennemi va utiliser ces choses-là pour tromper. Et c'est pas ça quand qui est question. Bien sûr, ça fait partie, mais c'est qu'un aspect de la puissance de Dieu. Surtout la puissance de Dieu quand elle vient dans nos vies, c'est pour guérir, cicatriser les blessures, soigner les carences. S'il y a des choses qui sont là en nous qu'on n'arrive pas à passer par-dessus, le Saint-Esprit, lui, il vient, il bouscule tout et il nous arrive à nous transformer. Ceux qui sont timides, je sais de quoi je parle, on devient plus timide parce que le Saint-Esprit nous envahit et nous amène plus loin que ce que l'on aurait fait tout seul. S'il y a quelque chose qui est là dans notre cœur, du passé, qui nous pèse, qui est un fardeau, le Saint-Esprit vient. Et moi, je pense à Pierre, je pense à cet homme qui était dans la culpabilité par rapport à ce qu'il a fait avec le Seigneur Jésus, par rapport à ses belles phrases, ses proclamations faciles quand tout va bien. Vous savez, c'est facile de dire des belles phrases quand tout va bien. C'est facile de s'opposer à des choses que l'on ne comprend pas. Et Jésus qui a dû lui dire, eh oh, va des rétro Satanas, hein, comme on entend en latin, arrière de moi Satan, à cet homme qui pensait pourtant servir le Seigneur. Mais Jésus a dû lui dire de cette manière pour l'arrêter dans son raisonnement humain. Cet homme qui a renié 3 fois son Seigneur. Non, jamais, je préfère mourir, Seigneur, que de te trahir. Eh, t'étais pas avec eux, toi, là-bas? Non, oulala, non, c'est pas ça. Vous savez comment ça s'est passé, hein? Est-ce que cet homme n'avait pas besoin de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que cet homme n'avait pas besoin? On sait qu'il y a eu ce moment avec Jésus, au bord du rivage, Pierre même tue 3 fois, etc., qui était déjà la guérison, mais on sait que cet homme était fragile toujours. Et pour qu'il devienne l'apôtre Pierre de la Pentecôte, il a fallu qu'il soit plein de puissance. Frères et sœurs, je crois qu'on a tous besoin, et de plus en plus, d'être plein de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui nous permet d'être plein de force, plein d'amour, plein de sagesse, plein de paix, plein de joie, plein de tout ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur veut combler nos vies. Mais le Seigneur ne remplit pas ce qui est déjà plein. C'est une loi. Si notre cœur est plein de toutes les choses de cette terre, il ne va pas le remplir. Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui met la pression. Il attend qu'on vide. Et parfois, c'est par les larmes, c'est par la repentance, c'est par les prières que nous faisons. Seigneur, tu vois combien je suis pas au point, je suis pas à la hauteur. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Le Seigneur aime réparer le vase, mais il veut pas juste le réparer, il veut le remplir jusqu'à ce que ça déborde. Et on voit que dans ce passage, le vase va déborder, hein. On sait ce qui se passe. Ils vont parler du Seigneur, ils vont parler en d'autres langues. Ce que j'aime, c'est qu'ils vont vers les personnes. Le Saint-Esprit n'envoie pas les gens dans des cavernes. Le Saint-Esprit envoie les personnes dans la rue. Il envoie ses serviteurs auprès des autres qui ont besoin de ressentir et de voir la puissance du Seigneur. Ils disent des merveilles de Dieu, ils disent des versets, ils s'appuient sur la parole. Ils disent pas des choses comme ça, olé olé. Ils sont pas mystiques, ils sont ils conjuguent les connaissances qu'ils ont de la parole avec la réalité de ce qu'ils vivent. Et puis surtout, ils mettent le Seigneur Jésus en avant. Regardez la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Et notez à qui il a rendu gloire. À Jésus. Quand on est plein de la puissance du Saint-Esprit, on s'appuie sur la parole et on rend gloire à Jésus. Et le résultat, il est très simple, c'est que tous les auditeurs ont le cœur vivement touché. Je crois que c'est tout ce qu'on voudrait quand on parle, quand on agit, quand on témoigne de notre foi, que les personnes aient le cœur vivement touché. Mais ça se passe quand il y a la puissance de Dieu dans notre cœur et qu'elle se révèle dans ce que nous faisons. J'ai oublié qu'il y avait un autre verset qui n'était pas dans les Actes. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Allez, je vous fais la grâce de le lire puisque vous le connaissez par cœur. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, il fait comment ? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà la façon dont la puissance du Seigneur se manifeste. Il fait infiniment au-delà. Et si vous lisez le contexte d'ailleurs d'Éphésiens 3, vous voyez qu'il est question juste avant la puissance de Dieu, la manière la plus magistrale dont la puissance de Dieu se manifeste, c'est quoi ? L'amour. L'amour large, long, haut, profond. L'amour incommensurable. L'amour infini de notre Seigneur, c'est ça la puissance. Et par cet amour puissant que le Seigneur dépose dans la vie de ses apôtres, il va pouvoir bénir toute une génération, cette génération de la première Église. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de travail pour le Seigneur et au nom du Seigneur. Et on sait que dans notre monde, il y a plein de gens qui font ça. C'est bien. Mais si ce n'est pas par la puissance de l'amour de Dieu, on peut se tromper même de combat dans ces moments-là. Quelqu'un a dit que le service sans altruisme, ce n'est que de l'activisme. Le service sans cet amour profond pour Dieu et pour les gens qui nous entourent, ça peut devenir que de l'activisme. Vendredi a eu lieu la cérémonie des obsèques de mon oncle. Ce qui était marquant, ce qui a été rappelé plusieurs fois, c'est que c'était un homme qui n'était pas du tout un moulin à paroles. Quelqu'un de très discret. Quand on discutait avec lui, il fallait lui tirer les vers du nez, comme on dit. Hein. Mais ce qui était remarquable, c'est que sa vie et l'amour qu'il émanait de lui ont marqué des centaines de personnes. J'étais une église, je ne sais plus combien, il y avait au moins 300 ou 400 places, et c'était rempli, les gens au fond. Quelqu'un qui n'a pas dit de grandes paroles, mais qui était présent, qui était aimant, qui portait dans sa vie l'amour du Seigneur. Et je vous fais une confidence, il ne faudra pas le répéter, mais un de ses frères qui est un athée, donc un autre oncle, qui est un athée depuis toujours, quand on a demandé de décrire un aspect de la personnalité de son frère, donc, il a dit ça, qui nous a tous scotchés, il a dit « c'était un vrai chrétien ». Pour montrer que même dans la famille, même si les gens font un style qui sont un peu contre, le cœur est touché, parce qu'il y avait un témoignage. Et je me pose la question, alors ça nous permet de nous poser la question à nous tous, mais le jour où on partira, qu'est-ce qui va ressortir de nos vies ? Je trouve remarquable que de lui, c'est l'amour, la paix, sa foi qui ressort de sa vie. Et je peux vous dire, je vous remercie pour les prières, mais je peux vous dire que la cérémonie, ça a été un moment particulier où le Seigneur s'est glorifié. C'était quelqu'un qui avait dit, quand il a appris sa maladie, Dieu sait ce qu'il fait. Une maladie qui donnait peu d'espoir, il n'était pas sûr de guérir, la preuve en est, il a dit Dieu sait ce qu'il fait. Et il est resté dans la paix, jusqu'au bout. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'amour de Dieu dans les vies. Laissons le Seigneur nous remplir de sa puissance. Mais pour cela, nous avons besoin d'être tous ensemble. Nous avons besoin d'être d'un seul cœur, une seule âme. C'est des expressions qui sont fortes, mais qui veulent dire ce qu'elles veulent dire. On n'est pas là pour tergiverser sur des opinions. La Bible, elle est claire. Ne discutez pas les opinions. Oh, là où on doit discuter, c'est la doctrine, parce qu'on a besoin d'être d'accord sur la doctrine, hein, sinon on ne peut pas. Mais les opinions, chacun pense ce qu'il veut, ça c'est une affaire. Mais quand il s'agit d'être rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas besoin de discussion. On en a besoin, c'est tout. Parce qu'on a besoin que l'amour du Seigneur se répande dans notre génération, et Dieu veut le faire. C'est un mystère, ne me demandez pas pourquoi il a choisi. Il aurait pu envoyer les anges, il aurait pu envoyer Jésus à nouveau pour que tous les gens se convertissent. Non, il a choisi des hommes et des femmes comme nous, faillibles, petits, mais remplis de sa puissance et qui font le travail. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être tous ensemble. Et quand on est tous ensemble, plein de la puissance du Saint-Esprit, ça édifie l'Église. Au verset 42, regardez ce qu'il est dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ça, c'est un beau programme, hein? On vote pour le président qui a ce programme-là, tout de suite. Mais on sait que ça arrivera pas. Sauf quand le Seigneur Jésus va revenir sur terre, là c'est bon, on est sûr. Mais en attendant, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, dans les maisons, etc. Ils étaient tous ensemble, alors dans plusieurs endroits, et en fait ils n'étaient pas toujours tous ensemble, parce que les maisons, elles pouvaient pas contenir, il y avait 3000 personnes qui se sont converties. Oui, sinon c'est un palais, hein, la maison, vous comprenez. Mais ils étaient tous ensemble dans plusieurs endroits différents à la fois. Quand ils avaient l'occasion, ils allaient au temple pour se retrouver. Ça, le temple, ça parle de cette image quand on se retrouve le dimanche. Mais il y a cette notion des maisons qui parle de ces moments où, dans notre temps de semaine, on se retrouve aussi pour avoir ce temps avec le frère, la sœur, pour partager des choses ensemble, parce que on a besoin d'être ensemble pour prendre soin les uns des autres et pour s'encourager. Vous avez besoin d'être encouragé ? J'ai besoin d'être encouragé, moi aussi, hein. On a tous besoin. Et c'est pour ça que l'Église, c'est pas une seule personne. C'est pas que le Seigneur Jésus, mais c'est des frères, des sœurs qui s'encouragent, qui prennent soin. On voit que là, il y avait même un souci de prendre soin socialement. Ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens, ben, ils étaient bénis par ceux qui en avaient plus. Il y avait vraiment, alors même une mise en commun, c'est pas question qu'il faut qu'on refasse ça, hein, c'est pas ça, mais c'était une façon de faire à l'époque. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait le vrai souci du frère et de la sœur. C'est pas juste, ah, je suis content de te voir, à la semaine prochaine. Non, il y avait quelque chose de plus fort, plus profond. Qu'est-ce que vous diriez si vos enfants, qui sont loin, vous appelez qu'une fois par toutes les semaines? Bon, c'est peut-être le cas, hein, parce que des fois, ça arrive. J'espère que, Lucas, tu écoutes, hein. Il faut m'appeler tous les jours. Mais vous comprenez, on a besoin de prendre soin. Alors, c'est pas tous les jours forcément, mais de penser. Et justement, si quelqu'un n'est pas là tel dimanche, ah oui, mais c'est le pasteur, c'est son travail. Il faut qu'il appelle les gens. Oui, d'accord. Le berger doit prendre soin des brebis, je suis d'accord. Je suis le premier à le dire oui. Mais est-ce que on n'est pas censé aussi prendre soin les uns des autres? Est-ce que la puissance du Saint-Esprit, à quel moment ça s'est passé? On est dans le chapitre de la Pentecôte, et souvent on oublie ça. Dans le chapitre de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la façon dont on prend soin les uns des autres aussi. Et on a besoin de grandir, tous, tous ensemble. Mais c'est justement pour ça qu'on est là ce matin, parce qu'on dit Seigneur, viens, viens mettre ta grâce dans nos vies. Je vous l'ai déjà dit, mais je crois que c'est bien de le rappeler. Quand j'ai vécu une expérience profonde avec le Seigneur, la première chose qu'il m'a montré, c'est d'aller vers les gens. C'est d'aller voir les personnes, de dire bonjour, de parler. Et j'étais ni pasteur, ni chantre, ni prédicateur. J'étais un chrétien lambda dans l'église. Mais j'avais l'appel du Seigneur pour ça, c'est tout. Et je l'ai fait. Parce que le Saint-Esprit, quand il agit, il nous amène dans ces réalités toutes simples. Vous savez, il y a une personne qui disait, et quand je l'ai entendu, franchement, j'ai eu le cœur brisé. « Oh, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, si je dois en plus m'occuper de ceux des autres, j'ai pas le temps. » Une sœur, hein, qui disait ça. On peut l'entendre dans le monde et on le comprend parce que les gens peuvent être dépassés, mais dans l'église, moi je l'entends pas. Parce que justement, j'ai vécu l'inverse. Quand je m'occupe des autres, quand je prends du temps avec les personnes, Dieu il s'occupe de moi. Dieu il prend soin de moi. Et c'est pas du temps perdu, au contraire, c'est l'investissement. Parce que qui c'est qui aime mon frère, ma sœur, plus que moi? C'est le Seigneur. Et qui c'est qui m'aime aussi? C'est le Seigneur. Donc il n'y a aucun souci à cela. Vous savez, quand on considère... Parce que moi j'aime bien regarder ce qui se passe. Quand je me souviens de cette personne et que je vois aujourd'hui où c'est qu'elle est, ben je confirme que j'ai eu de la tristesse, pas pour rien. Parce que c'est quelqu'un qui est parti de l'église. Ses enfants qui étaient tous dans l'église, il n'y en a qu'une qui est restée. Tous les autres, ils sont éloignés de Dieu. Parce qu'ils ont vu cette attitude-là. Quand on ne sème pas l'amour de Dieu, ben on ne peut pas récolter la grâce de Dieu, vous comprenez? C'est sérieux, la foi. Et on doit être vrai, on doit être simple, et on doit aimer. Il ne s'agit pas de se charger de tous les fardeaux de tous les chrétiens, parce que ce n'est pas nous qui devons nous charger. Et Jésus l'a dit, non, déchargez-vous. Celui qui se charge de nos fardeaux, c'est le Seigneur. Et il l'a fait à la croix. Mais par contre, il nous invite à être des frères et des sœurs. Suis-je le gardien de mon frère? Ça vous rappelle quelque chose, ça? Oui, mais quand vous considérez la personne et ce qu'il a fait, ça ne vous donne pas envie de suivre l'exemple. Et je vais vous donner la réponse. Oui, nous sommes les gardiens de nos frères. Nous sommes les protecteurs. On n'est pas les espions, hein? On n'est pas là pour épier. Oh là là, il a fait ça, je vais lui tomber dessus. Non, non, non. Je suis le gardien. Je veux l'aider. Et je prie qu'il y ait des gardiens aussi qui soient là pour moi, pour me permettre d'être protégé, parce que le Seigneur nous aime. Je me souviens de ce pasteur qui me parlait d'une dame de 92 ans à l'époque, donc je pense que maintenant elle est partie auprès du Seigneur, mais c'était une dame qui portait sur son visage l'amour du Seigneur. À 92 ans, elle était ouverte, souriante, elle rendait témoignage à ses voisins, et souvent elle était attentive à la personne qui venait à l'église, ou pas. Et quand elle manquait la personne, elle l'appelait ou elle essayait de passer pour aller le voir. Et après, la première chose qu'elle faisait, elle allait téléphoner au pasteur. « Pasteur, il y a cette personne qui n'est pas venue, je suis allé la voir. Elle a besoin que vous alliez prier pour elle. » Voilà, 92 ans, remplie de l'amour du Seigneur. Ça donne envie. C'est quelqu'un qui a choisi de bien vieillir. Vous savez qu'on peut bien vieillir et mal vieillir, hein, vous le savez tous. Mais c'est tellement mieux de bien vieillir, de prendre soin des uns des autres. On va aller dans le chapitre 4. Je vois que l'heure passe. Hein. Acte 4, verset 23. On a besoin d'être tous ensemble pour prendre soin les uns des autres, mais aussi pour partager les fardeaux. Acte 4, 23. Après avoir été relâchés, c'est Pierre et Jean, hein, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et ils dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Regardez au verset 29, j'abrège la prière. « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. » Comment est-ce que le Seigneur a pris cette prière? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pierre et Jean qui sortent de prison, ils ont été battus, ils ont été menacés de mort. Si vous continuez, ça va mal se passer pour vous. Qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, ils vont vers l'église et ils partagent le fardeau. Frères et sœurs, l'ennemi se sert trop de nos non-dits, de nos hontes. Ah non, non, je ne vais pas parler de ça. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ah, je ne vais pas partager, j'ai telle blessure, mais je vais le garder pour moi. Le Seigneur est assez grand pour me bénir quand même. Oui. Mais regardez, Pierre et Jean, ce n'était pas n'importe qui. Les disciples, les apôtres, ils venaient d'être menacés. Qu'est-ce qu'ils font la première chose? On va aller le dire à l'église. Et on va tous ensemble prier, partager les fardeaux les uns des autres. On a besoin d'être tous ensemble aussi pour partager les fardeaux. On est dans un temps où il y a l'opposition, ce n'est pas la même opposition que du temps des disciples, mais c'est quand même une opposition dans notre pays. L'interdiction qu'ils avaient de parler du Seigneur, ça nous fait penser à une autre façon de le faire aujourd'hui, c'est la laïcité extrême. Il y a une bonne laïcité qui est tolérante, et il y a une laïcité extrême où on n'a pas le droit de rien dire du tout, nulle part. Et on est dans ce temps-là. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans ces moments? De partager nos fardeaux. Il y a peut-être des menaces, il y a peut-être des injustices à cause de notre foi, dans notre travail, ça arrive, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Mais quand on partage le fardeau, qu'on prie tous ensemble, Il y a un Dieu qui agit et qui change le mal en bien. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Seigneur, on est menacé, alors tu comprends qu'on va se taire maintenant, hein? Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Seigneur, on est menacé. Donne-nous de l'assurance, quelque chose qui vient du ciel, parce que nous, on a peur. Viens nous remplir de ton esprit afin qu'on ait l'assurance pour annoncer ta parole. Mais c'est ce qui s'est passé. Le lieu a tremblé tellement Dieu était content. C'était, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'était l'approbation même physique du Seigneur qui se manifestait dans ce temps-là pour dire « Je vous bénis, j'envoie mon esprit sur vous ». Frères et sœurs, est-ce que nous voulons être tous ensemble pour partager les fardeaux? Osez dire « Aujourd'hui ça va pas, j'ai besoin qu'on prie pour moi ». Osez dire « Je suis fatigué ». Priez pour que le Seigneur me donne des forces. Osez dire, j'ai telle maladie peut-être qui commence. Osez le dire. Alors bien sûr, c'est dans un contexte d'église, dans un contexte de confiance, dans un contexte de prière, dans un contexte de foi, etc. C'est pas en parler tout et n'importe quoi avec n'importe qui. Mais combien c'est important de pouvoir... Bon, on l'a parlé tout à l'heure même, dans cet acte de l'onction d'huile. Confesser les péchés les uns aux autres. Cette attitude d'ouvrir son cœur, de répandre son cœur dans la présence de Dieu. C'est exactement ce dont on parle ce matin. On va aller dans le chapitre 5. Je vous ai dit qu'il y avait les 5 premiers chapitres. Et donc le verset 12, le cinquième, tous ensemble, il se trouve là. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple et par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Amen. Ils se tenaient tous ensemble. Tous ensemble pourquoi ? Pour porter la délivrance au monde. Les gens venaient, c'est la suite du verset, ils venaient apporter les malades. Vous savez, c'est le moment où juste... Rien que l'ombre, parce qu'un homme était tellement rempli de l'amour, de la puissance, du Saint-Esprit, que juste son ombre suffisait à guérir les personnes. Mais parce que ce n'était pas lui qui guérissait, parce qu'il était plein du Saint-Esprit. Vous savez que ça s'est même vu plusieurs fois, et encore aujourd'hui, des gens qui priaient pour même un vêtement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à chaque fois, mais ils priaient pour un vêtement parce qu'ils n'avaient pas l'occasion d'aller voir la personne, et que le vêtement ou le mouchoir était posé sur la personne, elle était guérie. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce que parce que la méthode nous dérange, on s'oppose? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prier pour tous nos mouchoirs. Vous comprenez? Il faut être intelligent. Est-ce que vous auriez dit à Naaman d'être guéri comme ça? Même lui, il avait une façon de faire. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait fallu faire comme ça. Non, plonge-toi 7 fois. Vous savez que même aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, et Dieu bénisse ça, mais c'est incompréhensible, mais c'est mystérieux, mais c'est la gloire de Dieu, qui vont dans les eaux du baptême, pas pour se faire baptiser tel qu'on a l'habitude de le faire, ils l'ont déjà fait, mais pour être guéri. Ça se vit aussi, c'est les mystères, mais ça ne veut pas dire que c'est une doctrine, ça ne veut pas dire qu'on va mettre un baptistère continuellement et que tous les gens qui vont se baptiser vont être guéris. Ça dépend surtout de notre cœur, de notre foi, et puis de cette attitude de dire « Seigneur, je veux être avec mon frère et ma sœur, unis, d'un même cœur, d'une même âme. Est-ce que nous voulons venir à l'église, mais chacun de son côté? On se réunit juste dans un même lieu, c'est tout? Ou est-ce que nous voulons être tous ensemble dans le même lieu pour que ce monde puisse recevoir la délivrance dont il a tellement besoin? » Je me souviens de ce couple qui cherchait Dieu suite à des circonstances difficiles. Et ils m'ont avoué, voilà, on fait appel à vous, mais en fait, avant, on a demandé à une voyante de nous aider. Donc, voilà, on vous le dit. Bon, je leur ai expliqué, vous savez, la parole de Dieu est contre tout cela. Et puis, je leur demande, mais comment est-ce que vous avez eu connaissance de l'Église? Ah, ben en fait, c'est la voyante, elle nous a dit, oh là là, votre problème, c'est trop compliqué. Par contre, je sais qu'à Moissac, il y a une église évangélique. Allez voir le pasteur, il va vous aider. Je ne comprenais pas comment Dieu s'est servi de même quelqu'un qui ne le sert pas. Puis je me suis souvenu même de ce moment-là où Devant Paul, il y avait une femme qui criait « Ce sont les serviteurs de Dieu, ils annoncent la bonne nouvelle !» Voilà, c'est mystérieux. J'aurais aimé la rencontrer pour qu'elle vive la même chose que cette dame a vécue. Vous savez que Paul a délivré cette femme de la puissance des ténèbres. Hein. Mais ça a été l'occasion que un homme, une femme entendent parler du Seigneur et que la délivrance puisse être apportée à un couple. Dieu fait ce qu'il veut, mais il a besoin d'hommes et de femmes qui sont tous ensemble. C'est ça l'Église, c'est ça qui édifie l'Église. Ensemble, pour persévérer dans la prière, pour être plein de puissance, pour prendre soin les uns des autres, pour porter nos fardeaux, pour porter la délivrance au monde. Je crois qu'il y en a assez déjà, hein ? Pour nous ce matin, Seigneur, qu'est-ce que nous pourrons dire d'autre que nous voici ? Envoie-moi, envoie-nous à ce monde. On va fermer les yeux et terminer par la prière. Oui, Seigneur, merci parce que tu n'as pas choisi de nous sauver chacun de notre côté, mais tu as choisi de nous sauver tous ensemble. Même si nous venons tous par des chemins différents, nous avons tous pris le chemin de la vérité de la vie. Nous sommes tous passés par la porte, par ta personne, Seigneur, la foi en toi. Et nous voulons réaliser que tu ne nous demandes pas de vivre à l'écart, mais tu nous demandes d'avoir cette unité de l'esprit. Donne-nous la sagesse pour bien comprendre ce que ça signifie. Donne-nous l'intelligence pour ne pas être trop ni pas assez, mais dans cet équilibre profond. Seigneur, oui, nous aspirons à la puissance de ton Saint-Esprit. Nous aspirons à ton onction sur nos vies. Pas, Seigneur, quelque chose de fabriqué, pas ce que les raisonnements humains peuvent donner, mais ce que le Saint-Esprit peut provoquer dans les cœurs. Seigneur, nous aspirons à ce que quand nous parlons, il y ait ton onction et que les cœurs soient vivement touchés. Seigneur éternel, et nous savons que c'est en toi que se trouve tout. Oui, déjà avec le peuple juif et les païens, tu n'en as fait qu'un, Seigneur, comme nous l'avons entendu. Et de nous tous qui venons de plein d'horizons différents, tu n'en fais qu'un pour que nous soyons cette église glorieuse, sans tache ni ride. Seigneur, oui, et la liberté dans nos cœurs, Seigneur, d'agir, de faire, de manifester ton amour, ta paix et ta joie, pour que ce monde puisse recevoir cette bonne nouvelle. Tu vois ces hommes et ces femmes perdus, sans espérance. Tu vois ceux qui meurent sans avoir entendu parler de toi. Tu vois ces familles qui sont, Seigneur, dans la dépression, qui sont dans les liens de cette terre, la drogue, l'alcool. Seigneur, tu es le Dieu qui veut délivrer, nous le croyons. Et nous voulons être ces humbles serviteurs et servantes qui entrent tes mains. Amène la paix là où tu les envoies. Remplis-nous, Seigneur, ce matin. Remplis-nous comme au premier jour. Viens faire trembler dans nos cœurs, nos vies, nos âmes, nos corps, par ton esprit, afin que nous apportions cette lumière dans ce monde et pour ta gloire. Amen.